Bonjour à tous, merci d'être là. On va faire en sorte de retarder un petit peu la pluie, puisque quelques premières gouttes sont en train de tomber, et donc on va commencer sans tarder. Le programme quand même du jour, les mots d'auteur, nous recevrons Louise d'Outreligne à la fin de cette conférence de presse. Mais auparavant, deux plateaux danses avec Christian Rizzo qui viendra tout à l'heure et Mathilde Monnier, ici présente, pour Frères et Sœurs, qui est donc le troisième spectacle de la cour du 20 au 27. Donc bonjour Mathilde Monnier. Vous êtes accompagné de Stéphane Bouquet, écrivain, cinéaste et scénariste poète. Sur cette pièce, poète. On va voir quel a été votre rôle et votre collaboration. Et puis, au bout de table, Eric M, qui est donc le compositeur et le musicien. Vous êtes aussi présent sur le plateau de la Cour d'honneur. Alors, Mathilde Monnier, je crois que c'est la première fois que vous êtes dans la Cour. Est-ce que cet espace a influé sur la création de Frères et Sœurs?
Alors oui, bien sûr, c'est la première fois. En fait, il y a un an, Vincent Baudrier et Hortense Archambault, nous avions eu des discussions justement à propos de cet espace-là. Donc ça fait un an que moi j'ai l'impression d'être dans la cour, même si je n'y suis pas réellement, en tout cas de vivre avec cet espace-là. Et bien sûr, quand on fait une création pour un espace pareil, on est presque tout le temps dedans. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'intéressait aussi dans cet espace, c'est cet aspect à la fois gigantesque et panoramique de la cour, mais aussi toute l'énergie. Il y a l'énergie et le calme, en fait, qu'apporte cette cour. C'est très paradoxal, mais j'ai toujours ressenti, en fait, ces deux espaces à la fois que ça draine une immense énergie et en même temps quelque chose de très serein dans cet espace-là. Donc, voilà.
Mais ça suppose une dimension de la pièce, c'est-à-dire un nombre d'interprètes. Vous vous êtes posé cette question-là d'une chorégraphie plutôt grand format avec beaucoup d'interprètes ou au contraire, vous restiez dans vos...
Mais, en fait, moi, depuis plusieurs années, je travaille avec un groupe d'artistes qui me suit et qui sont pour la plupart presque sur toutes mes pièces. Et je travaille depuis longtemps avec un groupe assez important. Sur la dernière pièce des routes, il y avait déjà 13 danseurs, sur les lieux de là aussi. Donc c'était finalement dans la suite un peu de mon travail, de se confronter toujours à cette notion de groupe qui est pour moi très importante et fondamentale dans mon travail.
Alors on y reviendra peut-être, mais Frères et Sœurs, vous avez fait appel à un poète, puisque vous l'avez nommé ainsi, Stéphane Bouquet. Pour quelle raison? Alors, on sait que vous aimez travailler toujours avec des gens extérieurs au milieu de la danse, faire appel à des artistes qui viennent d'autres horizons. Pourquoi faire appel à un poète que vous nommez scénariste dans les notes d'intention? Est-ce que ça veut dire que Frères et Sœurs a quelque chose à voir avec une narration?
Oui, on pourrait dire comme ça, en tout cas par rapport, surtout l'idée d'une sorte de récit. Hein, c'est-à-dire un récit qui est aussi un récit du geste, qui n'est pas seulement un récit parlé, hein, mais aussi un récit qui a une forme d'écriture dramaturgique. C'est-à-dire que sur cette pièce-là, la question du dénouement était vraiment importante. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de progression avec un dénouement, avec une pièce qui est structurée en trois parties bien distinctes. Donc c'est vrai que l'idée d'une sorte de scénario comme ça s'est imposée. Et donc pour moi, le regard de Stéphane à cet endroit-là est extrêmement important, et c'était aussi un regard en dialogue permanent.
Et la collaboration s'est faite dès l'origine ou en cours de route?
Dès l'origine, parce que dans les premières discussions que j'ai eues avec Stéphane, c'était au mois d'août l'an dernier, j'étais vraiment au tout début du projet, et j'avais besoin d'un interlocuteur. Vous savez, souvent dans la danse, on est souvent seul. Parce qu'en théâtre, il y a toujours cet espace, il y a un dramaturge, et c'est vrai que Pour moi, la personne, l'interlocuteur le plus important a souvent été Annie Toletter, la scénographe. Mais là, j'avais vraiment besoin de partager un peu le sujet de la pièce.
Alors, comment s'est passée cette collaboration, Stéphane Bouquet, avec Mathilde Monnier?
Bon, en fait, c'est un travail donc à la fois avec Mathilde. Donc, il y a eu pendant quelques mois avant que disons entre août et décembre, puisqu'on a vraiment commencé à travailler en décembre avec les danseurs, avec Eric M, avec Annie Toletter, la scénographe. Donc ça a été d'abord des échanges d'idées, de travail sur un certain nombre de textes qu'on pourrait dire des textes de référence, même si ça a été plutôt des zones de rebond pour nous, et pas du tout des textes qu'on a choisi d'adapter ou de mettre en scène, en fait. On s'en est très très vite éloigné, mais disons que en lisant ces textes, que ce soit Crainte et tremblement de Kierkegaard, ou que ce soit Comment vivre ensemble de Roland Barthes, on a en quelque sorte trouvé des façons de poser des questions qui nous intéressaient, en fait. Donc c'est plus ça qui nous a intéressé dans les textes que véritablement faire un travail, disons, d'adaptation. Et puis la deuxième étape, ça a été, à partir des questions qu'on s'est posées, que les textes nous ont aidé à poser, on est allé en studio et puis on a travaillé avec les danseurs en leur proposant, à la façon dont Mathilde travaille en général, c'est-à-dire en proposant aux interprètes des hypothèses d'improvisation, un certain nombre de, on pourrait appeler ça des contraintes ou en tout cas des idées, à partir de quoi les interprètes improvisent et c'est ensuite dans une espèce de dialogue comme ça que s'est construit la pièce. Bon, ce qu'on peut dire aussi sur l'idée de récit, c'est que dès le départ, on avait l'idée de construire la pièce sur l'idée de reprise ou de répétition, c'est-à-dire d'essayer des hypothèses. En fait, c'est une pièce, comme le titre plus ou moins l'indique, frères et sœurs, qui se pose des questions sur la façon dont on est capable, être humain, de vivre ensemble et selon quelles modalités. Et donc, ce qu'on avait structuré dès le départ, effectivement, c'était l'idée qu'on allait, en quelque sorte, explorer diverses hypothèses et les explorer également pour voir comment, effectivement, c'est possible ou pas de vivre ensemble.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire une liste de ces hypothèses ou des axes de chorégraphie qui, finalement, ont été retenus ? Parce que Mathilde parle de groupe, vous parlez de vivre ensemble. De répétition, est-ce que ce sont déjà des premiers axes ?
Tu veux... Oui, donc il y a trois axes qui apparaissent, qui sont toujours sur la question du lien. En fait, ça c'est extrêmement important. Donc effectivement, la question du lien, plutôt dans un esprit de violence, mais une violence qui est assez jubilatoire. La question du désir dans la deuxième partie, et la question de la fin, qui est la question de nouveau du lien. Comment est-ce que finalement on arrive à créer un lien qui est plus structurant, qui nous amène à nous reconnaître les uns des autres. Voilà, donc c'est une forme de jubilation du lien, je dirais, qui se décline comme ça dans les trois parties.
Et dans Frères,
on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose aussi d'assez immédiat dans la façon dont on a travaillé sur les liens qui sont là, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché du tout à construire des liens très compliqués ou très théoriques, mais que c'est vraiment des choses presque pulsionnelles qu'on a travaillées. Donc on l'a travaillé à la fois sur le mode de l'allégresse et sur le mode de quelque chose qui est peut-être moins allègre, mais à chaque fois on a travaillé sur ce qui est la base sans doute des relations humaines, à la fois des relations qui peuvent être des relations violentes, mais qui sont aussi des relations de désir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec nos pulsions et comment on peut, avec ces pulsions-là, construire quelque chose. Donc c'est à partir de ce matériau que la pièce s'est construite.
Mais si je m'en réfère au titre Frères et Sœurs, ça suppose un type de lien, vous choisissez déjà un type de lien, de quel type de fraternité est-il question ? De la fraternité d'une famille artistique ou de la fraternité d'une famille de sang ?
Non, il n'y a pas le père et la mère, hein. Il y a frères et sœurs, donc on n'est pas dans la famille, on est vraiment dans un lien de fraternité, et c'est ça qui nous intéressait. Donc c'est plutôt autour de cette question de non pas des liens de sang, mais des liens de reconnaissance, en fait, puisque c'est aussi une pièce qui travaille sur la question de l'identité, à savoir comment est-ce que, en étant aussi un petit peu l'autre, finalement, par moment, on arrive à être soi-même. Comment, en étant quelquefois proche de quelqu'un d'autre, finalement, se découvre sa propre identité. Donc c'est une pièce aussi où il y a beaucoup de semblables, les places sont toutes interchangeables, pour finalement arriver à désigner quelqu'un qui est de l'ordre de l'individu.
Alors, le jeu ici, c'est que le public puisse poser des questions, donc j'espère qu'ils ne vont pas s'en priver. Mais on va d'abord parler de la musique avant. Comment la musique intervient dans ce processus-là ? La musique s'inscrit dans ces axes que vous définissiez, dans cette question du lien, Mathilde Monnier ? Votre collaboration avec Eric Lem, qui n'est pas une première collaboration.
Voilà, ça il faut le dire, parce que c'est vrai que c'est important. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup retravailler avec les gens, et avec Eric, c'est la quatrième ou cinquième collaboration. Donc pour moi c'était important de l'emmener aussi dans cet espace de la cour d'honneur. Et donc c'est vrai qu'on se connaît bien. Et Eric a amené une réponse qui est vraiment la sienne, qui a été vraiment une en réaction vraiment à ce qu'il a vu dans les répétitions. Je sais pas, tu peux peut-être.
Oui, il y a plusieurs étapes. On a commencé à travailler au courant du mois de décembre et au mois de janvier. On était quand même pas mal en référence par rapport aux énergies qu'il pouvait y avoir dans le précédent spectacle que Mathieu avait fait qui s'appelait Public, c'est-à-dire de partir sur des musiques préexistantes de telle manière à ce que les danseurs puissent travailler dans des pulsions rythmiques et dans une énergie particulière. Donc on est parti d'abord sur des improvisations, par exemple, de 2 heures. On travaillait vraiment dans une notion, dans le même type qu'une boîte de nuit, par exemple, où les danseurs devaient rester dans la même énergie, en sachant que la musique pouvait passer d'un état à un autre. Et avec le temps, ce qui n'était pas évident du tout, de partir vraiment sur des choses qui existaient au départ avant de pouvoir amener sa propre musique sur ces bases-là, a commencé à s'inscrire sur un mode d'improvisation au départ, de test, d'écoute de ces improvisations par rapport à l'état de travail dans les différentes périodes, pour pouvoir, dans un troisième temps, rentrer en studio et complètement recomposer la musique sur l'énergie de ces improvisations, en enlevant les scories, en recalculant plus ou moins les temps, de telle manière à ce que ça fonctionne dans un temps musical, pour que la pièce musicale fonctionne d'elle-même au départ, pour que ce soit suffisamment fort à ce niveau-là, pour pouvoir laisser suffisamment de place à la danse sans forcément l'écraser, mais laisser suffisamment de place et d'énergie sur le plateau.
Donc à l'arrivée, c'est une partition écrite.
Au final, oui.
Et vous êtes sur scène?
Pas directement, parce que je pense que ça ne le justifiait pas du tout pour ce spectacle-là, mais malgré tout, je suis dans un rapport qui est un peu double, c'est-à-dire que je suis entre le jeu et la diffusion de la pièce. La pièce bouge quand même légèrement à l'intérieur, donc c'est simplement des rattrapages de temps par rapport à ça. Mais là, j'utilise en fait la même technologie sur le plateau que lors de la création, de telle manière à pouvoir faire les liens dans le temps au moment où ça se passe.
Sur votre curriculum vitae, j'ai vu compositeur et platiniste.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Platiniste, c'est un terme qui est... On en commence à parler des platinistes en anglais, c'est on table. C'est des gens qui travaillent... C'est l'équivalent d'un DJ, mais c'est un travail qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas à travailler forcément sur l'impulsion pour faire danser les gens. C'est plus un travail... Moi, je viens plutôt du collage en art plastique qui s'est retrouvé finalement dans le son. Et c'est une pratique sur base de vinyle au départ, détournement de l'objet, de l'instrument lui-même, de la lutherie, voilà.
C'est une très grande différence dans la création de travailler avec Eric M, avec une musique sur mesure, ou avec des musiques préenregistrées comme PJ Harvey pour votre précédente pièce, Mathilde Monnier.
Oui, c'est différent parce que quand on travaille sur des musiques enregistrées, on part vraiment de la musique enregistrée au début, ce qui avait été le cas avec PJ Harvey, où vraiment il y avait un support qui était présent, qui était très réconfortant de savoir qu'on allait travailler là-dessus. Quand on part sur un projet de création, c'est beaucoup plus risqué, mais c'est vrai que c'est un pari, moi je trouve, plus intéressant, plus important, et presque dans toutes mes pièces, j'ai travaillé avec des compositeurs. Voilà, il me semble que la danse s'invente en même temps que la musique s'invente. C'est deux choses qui vont ensemble.
Mais c'était Public qui était plutôt une parenthèse et un cas à part dans votre travail. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Y a-t-il des questions dans la salle ? Je ne sais pas où est le micro d'abord, mais je pense qu'il va surgir. D'accord. Monsieur.
Vous avez une question ?
Bien, je me présente, donc Gérard Mayen, je suis journaliste critique de danse, à Mouvement, dans ses magazines notamment, et rattaché par ailleurs au département de danse de l'Université Paris 8. Alors bon, là j'inverse les rôles, je ne viens pas poser une question, mais donner une information complémentaire, donc avec l'aimable autorisation et soutien de Mathilde Monnier. Donc signaler un petit événement à côté du grand événement, et en l'occurrence dans la parution de cet ouvrage dont je suis l'auteur et qui traite donc de la pièce « Déroute » de Mathilde Monnier, qui était l'une des précédentes grandes pièces de Mathilde Monnier. Donc c'est une analyse d'œuvre, un parcours dans cette pièce qui est assez rare. C'est un ouvrage exclusivement consacré à cette pièce. Alors évidemment, au-delà de « Déroute », c'est une manière d'aborder tout le travail de Mathilde Monnier. Donc l'ouvrage est disponible évidemment dans les librairies du festival et je suis là éventuellement pour satisfaire à toute curiosité complémentaire. Bon, merci Mathilde.
Ça ne s'appelle pas une question, juste une petite page de publicité.
Voilà.
Y a-t-il des questions, des vraies avec point d'interrogation? Parce que, à propos, est-ce que vous faites un lien, en attendant les questions, Mathilde Monnier, est-ce que vous faites un lien, est-ce que les pièces vraiment sont des continuités entre Déroute, donc la pièce qui vient d'être évoquée, Public et Frères et Sœurs?
Oui, il y a bien sûr, il y a du lien, mais je crois qu'on travaille sur ce qui manque de la pièce d'avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que quand une pièce est finie, je me dis pas, je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui me manque à moi, qu'est-ce qui était raté, et finalement, c'est là-dessus qu'on travaille. En tout cas, c'est comme ça que les pièces s'enchaînent.
Et comment vous l'avez nommé, ce manque, après Public?
Après Public, c'est une pièce quand même très particulière, parce que c'est une pièce qui est pas chorégraphiée. Il n'y a pas de chorégraphie, il y a de la danse. C'est juste un rapport à la danse, qui est un état de danse qui est traité. Et là, j'avais vraiment envie, bon, de garder quelque chose qui avait été découvert dans Public, une espèce de liberté dans la danse qu'on avait trouvée et qu'on avait exploitée, qui m'intéressait vraiment parce qu'elle fait référence à cette sorte de fiction gestuelle, de narration gestuelle. Donc c'est une danse qui est quand même très liée à un certain imaginaire de chaque danseuse. Mais j'avais vraiment envie de revenir à quelque chose de plus chorégraphique. Donc voilà.
Cela veut dire que vous avez laissé moins de place aux interprètes?
Ah non, ça ne veut pas dire ça. Les interprètes, ça, c'est simplement une autre manière de d'écrire un spectacle. Au contraire, les interprètes, dans toutes les pièces dans lesquelles je travaille, ont une place extrêmement importante. Ils apportent souvent une grande partie du matériel et qu'on affine ensemble, qu'on discute ensemble. Mais pour la plupart, c'est des interprètes que je connais depuis pas mal d'années. On se connaît et donc c'est un partage vraiment d'écriture chorégraphique.
Des questions pour Mathilde Monnier? Toujours rien. Alors Ah, pardon. Madame.
Voilà. Je voulais savoir, le silence, ça représente quoi pour vous et quelle importance dans la pièce et dans votre travail?
Dans cette pièce, il n'y a pas de silence, quasiment. Il y a un silence. Il y a beaucoup de soupirs, me dit Erikem.
Tu veux répondre?
Est-ce que la question elle est orientée directement par rapport à la danse ou le rapport entre la musique et la danse en général? Les deux? La question du silence... En tout cas, par rapport à une composition musicale pour un spectacle de danse, il y a des possibilités effectivement de pouvoir prendre en compte le silence d'une plus grande manière que dans une composition musicale traditionnelle. Tout simplement parce que le spectateur est concentré sur ce qu'il voit avant tout. C'est un peu comme au cinéma. Donc les gens fonctionnent d'abord avec le regard et après vient la notion de l'écoute. Donc ça, déjà, cette partie-là, ça me permet de décharger de pas mal de choses. La notion de silence par rapport à une pièce de danse, du coup, se justifie par rapport à ce qui se passe sur le plateau. Ou intéressant d'amener du silence sur le plateau à différents moments, par exemple dans des ruptures. Par exemple, on va parler de Déroute, tout simplement, on n'était pas vraiment dans le silence, mais on était dans des détails agrandis de sons qui pouvaient être générés par des danseurs lors de chutes sur le plateau. Différents danseurs pouvaient vraiment tomber au sol et émettre un son, c'est-à-dire le, un son acoustique du corps qui tombe sur le plancher, de pouvoir amplifier cette chute et de l'amener, de faire un détail agrandi d'une scène qui se passe à 20 mètres de profondeur et de l'amener dedans, ou vice versa, ou alors être dans une grande masse sonore par exemple et au moment de la chute enlever le son de telle manière à ce qu'on entend réellement le corps tomber, et de manière aléatoire parce qu'ils tombent pas forcément au même moment, et tout dépend du moment où on se trouve dans la dramaturgie de la pièce et dans la dramaturgie par rapport à la musique, pour pouvoir emmener ces différents silences à différents moments. Mais par rapport à une musique qui est composée, le silence se fait au moment où il se... Moi, je trouve que ça fonctionne énormément à l'instinct, en fait, par rapport aux compositions qui se font en improvisation sur le plateau. Je regarde très peu ce qui se passe sur le plateau. Je suis plutôt concentré sur l'énergie des danseurs. Et effectivement, il y a des moments où les corps font suffisamment de musique pour pas en emmener en plus. Et de pouvoir, par exemple, rattraper ces différents mouvements qui ont l'air de rien, qui peuvent être enregistrés en temps réel et être transformés la pièce musicale et entre guillemets la chorégraphie.
Y a-t-il d'autres questions ? Apparemment non. Mathilde Monnier, vous disiez que c'était une pièce très chorégraphiée, ou en tout cas beaucoup plus chorégraphiée que ne l'était la précédente publique. Est-elle scénographiée dans la cour ?
Alors oui, elle est scénographiée, bien sûr, parce que là, pour le coup, la scénographie a été là dès le premier jour. C'est le premier travail qu'on a fait sur cette pièce, c'est un travail de scénographie, puisqu'on avait, on était parti d'un projet qui créait plusieurs espaces dans la cour. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace est divisé en quatre plateaux, trois plateaux, mais quatre espaces différents. Donc c'est une manière aussi à la fois de donner une unité à la cour, mais aussi de pouvoir isoler des espaces. Et ça, c'était quelque chose qui a été vraiment à la base vraiment de l'écriture chorégraphique.
Sur une horizontalité, sur une idée d'horizontalité.
Voilà, c'est complètement horizontal. Moi, ce qui me fascinait dans cet espace de la cour, c'est ce sol, c'est-à-dire cette horizontalité, cette chose panoramique, presque comme un panorama au cinéma, et donc d'accentuer justement cette ouverture de l'espace, tout en gardant une verticalité qui est donnée par la lumière. En fait, tout le travail de la verticalité est surtout un travail qui est lié un petit peu à ce qu'on peut avoir, par exemple, dans les grands stades de sport, où il y a ces énormes verticalités avec ces espèces de énormes projecteurs qui sont des projecteurs d'extérieur.
Donc c'est une pièce publique.
Bien sûr, c'est une pièce publique.
Pas de remords sur les questions ? Toujours rien ? Toujours rien. Donc merci beaucoup Mathilde Monnier,
merci.
Stéphane Bouquet, Eric M. Et rendez-vous dans la cour le 20 et jusqu'au 27 pour Frères et Sœurs. Merci. Je vais demander à Christian Rizzo de venir nous rejoindre. Christian Rizzo, bonjour. Vous êtes au Cloître des Carmes à partir du 19 et jusqu'au 25 pour une pièce intitulée « Soit le puits était profond, soit il tombait très lentement, car ils eurent le temps de regarder tout autour ». On sait votre amour pour les titres un peu longs. En l'occurrence, cette phrase-ci est une phrase de Lewis Carroll, si je suis bien informé. À quel moment le titre d'une pièce s'impose pour vous ?
Alors, cette histoire de titre, il faut toujours revenir là-dessus.
Vous embête de revenir toujours sur cette histoire ?
Non.
Mais c'est assez extraordinaire. Soit le puits était profond, soit il tombait très lentement, car ils eurent le temps de regarder tout autour.
Oui, mais je crois que c'est parce que c'est une phrase extraordinaire que je l'ai gardée comme titre. Donc, pour les titres sont toujours là avant de commencer le travail. C'est pour moi comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup de littérature, donc... Il y a des phrases au milieu de livres qui me qui s'arrache du livre pour devenir une entité à part entière. Donc ces phrases, je les note. Et très souvent, c'est des phrases qui contiennent en elles très souvent une notion de mouvement, de temps et un point de vue. Donc voilà, cette phrase était dans un de mes carnets depuis X temps. Et quand j'ai décidé d'attaquer ce nouveau projet, voilà, ce titre est revenu en fait.
Lewis Carroll, de quel livre de Lewis Carroll? Alice?
De Alice au Pays des Merveilles, oui.
Et c'est un livre que vous aviez lu il y a très longtemps et qui tout d'un coup, cette note-là de vos carnets ressurgit ou...
En fait, j'avais lu le livre il y a très longtemps, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, le titre de la pièce, et donc la phrase qui est extraite, je l'ai retrouvée en exergue dans un autre bouquin. Et en fait, cette phrase, du coup, était déjà arrachée au roman. Et le fait de l'avoir déjà arraché, moi de l'avoir arraché de mon côté aussi dans mes carnets, en fait, ça a été un concours de circonstances, mais quelque chose me disait quelque chose dans cette phrase.
Et cet autre bouquin avait son importance ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Donc que vous disait ce titre-là, cette phrase-là? Parce que j'ai l'impression que vous avez pris la phrase au pied de la lettre,
Étonnamment, très sérieusement. Étonnamment, elle me disait rien. Elle me disait quelque chose, donc j'ai fait une pièce, et c'est une fois que la pièce a été terminée que j'ai compris pourquoi j'avais choisi ce titre-là au moment où je l'ai choisi. C'est-à-dire que, enfin, pour aller vite, le fait même de faire une pièce, pour moi, c'est tout simplement de m'arrêter à un moment dans le temps et de réfléchir au monde qui m'entoure. Donc, je travaille. Voilà, il se trouve que j'étais, j'ai une façon de regarder le monde et que. À un moment donné, j'ai besoin de créer une forme X ou Y qui va devenir un filtre pour moi pour pouvoir regarder le monde et le trouver plus acceptable. À ce moment-là, je crois qu'il y avait cette notion de chute qui était très importante pour moi et que dans ce titre, il est question d'une chute lente. Donc voilà, elle était...
Mais de quel type de chute? D'où chute-t-il?
Alors il y a plein d'enjeux sur la. C'est plus l'enjeu de la chute qui m'intéressait. Donc à partir de là, il y a mille façons de chuter. Et qu'est-ce que ça veut dire chuter et pourquoi la chute aujourd'hui? Donc on peut s'écrouler, on peut venir se déposer, on peut chuter de l'intérieur. Mais ce qui m'intéressait, c'est que on a nous encore cette possibilité de chuter, mais de se relever. Et que autour de moi, regardant le monde, je vois beaucoup de gens et beaucoup de choses chuter, mais sans capacité de renouveler cette expérience de la chute. La chute est définitive. Donc c'est pour moi c'est aussi une extrême grande douleur de m'apercevoir de ça, et une extrême à la fois plaisir et engagement de me dire de remettre cet enjeu de chute au travail, sachant qu'on nous on a cette capacité. De se relever et peut-être de renourrir cette expérience de la chute.
Alors que des morceaux d'écorce chutent sur la table, oui, on a la possibilité de se relever, mais j'ai l'impression que nous tous, occidentaux, vivants, humains, etc., il y a un moment de la chute qui est celle de la mort, de laquelle on ne se relève pas. Et j'ai l'impression que cet instant de mort-là et cette question de la mort est aussi présente dans « soit le puits était profond, soit il tombait ».
Ben c'est présent dans toutes les pièces que j'ai faites. J'ai envie de dire de fait. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre à traiter au théâtre que cet enjeu de la disparition et donc en effet de la disparition ultime qui est la mort. Enfin pour moi il y a pas d'autre chose que la mort au théâtre ou la disparition dont la mort fait partie. Donc à partir de là, je crois toutes les pièces à la fois chorégraphique mais aussi plastique tourne pour moi autour de cette chose-là.
Donc est-ce que vous diriez que la danse ou le théâtre, ce serait une façon de faire apparaître quelque chose de la disparition?
Oui, pour moi c'est tenter en tout cas de donner des formes à cet enjeu de la disparition pour l'appréhender, c'est-à-dire de pouvoir c'est pas une chose comme ça qui arrive de but en blanc. Et je crois pour moi en tout cas le théâtre sert à ça aussi, c'est-à-dire que toutes ces expériences là sont des expériences qui nous rapprochent d'une idée de la mort pour peut-être la faire sienne. Alors, la faire sienne aussi au sein d'une communauté, ce qui est super important pour moi. C'est pas juste une façon singulière de travailler en boucle fermée.
Alors, dans votre travail d'élaboration, Christian Rizzo, apparaît le titre, des préoccupations, un état du monde. Comment ensuite se structure et se chorégraphie le spectacle? À partir de quels éléments?
Dans l'idéal, pour moi, avec tous les éléments qui doivent constituer, qui seront visibles sur le plateau et qui constituent le théâtre. C'est-à-dire que je dis toujours que j'essaye de travailler avec tous les éléments, à la fois scénographie, costume, danse, éventuellement du texte, musique et lumière, en même temps. Je me refuse à l'idée, par exemple, de travailler avec des danseurs et à prétenter de le mettre en espace ou trouver les costumes qui doivent aller avec ça. C'est-à-dire que tout doit jaillir en même temps. Je crois que quand je me mets au travail, la pièce existe déjà. Donc tout le temps de travail, c'est la révélation de pourquoi, à un moment donné, j'ai mis un an et demi d'énergie à constituer, ne serait-ce que, je sais pas, la production, pour me retrouver le premier jour dans ce studio-là. Donc c'est vrai qu'il y a toujours la scénographie qui est là, présente, puisque je fais aussi la scénographie. Donc j'ai besoin que l'espace dans lequel les corps vont tenter de se révéler soit présent. Puisque pour moi, si je commence à travailler dans un lieu X ou Y, je vais commencer à regarder les corps en fonction de ce lieu, et je ne vais pas me prendre tout le studio dans lequel je travaille pour le déplacer. Donc j'ai besoin de, dans un premier temps en tout cas, d'avoir un espace qui me permet de recadrer aussi mon regard dans ce que je vais voir, puisqu'on travaille beaucoup aussi en improvisation. Donc,
parce que vous parliez du titre et donc de l'importance de la littérature. Je me suis demandé, en voyant votre spectacle, puisqu'il a été présenté à Paris, au Théâtre de la Ville, il y a quelque temps, je me suis demandé si la peinture, et notamment les tableaux d'Uccello, faisaient partie comme ça des éléments structurants dans la mise en place de cette pièce-ci.
Mais pour moi, comme toutes les pièces que je fais, je crois que ce sont des pièces qui sont autobiographiques. Donc c'est aussi, de fait, une façon pour moi de dire « je » avec... de m'entourer de toute une équipe pour arriver à dire « je » à un moment donné. Mais ce « je », il est nourri de tout ce qui fait qu'aujourd'hui je peux dire « je », et notamment de peinture. Enfin, je suis quelqu'un qui vient en plus des arts plastiques avant la danse, que j'ai commencé avec Mathilde Monnier en plus. Donc je suis très heureux et ému de partager. On joue à peu près les mêmes jours, donc c'est quelque chose qui est aussi assez important pour moi. Mais par exemple, Mathilde, c'est quelqu'un qui m'a permis de dire... Si aujourd'hui je peux dire « je » au travers de ce que je fais, Mathilde est présente. Une grande partie de la peinture, j'aime beaucoup ça, je suis aussi nourri d'art plastique, jaillit constamment. Donc pour moi, il y a plein de c'est des références qui me permettent d'aller vers la forme que j'essaye de trouver. Mais il y a beaucoup, par exemple, comme on peut voir beaucoup de choses du Bauhaus ou du constructivisme ou toujours le fantôme de James Lee Byers qui est présent.
Oui, là vous faites référence au décor, parce que quand vous parliez de scénographie, il y a un décor très important, c'est une grande... aidez-moi, hein.
C'est un plateau, en fait c'est un plateau modulaire qui commence comme un plateau, puisque voilà, mais qui est un plateau avec toute l'abstraction de tout ce que sont les plateaux, c'est-à-dire... C'est un moment où on va venir se poser, donc ça peut être une piste d'atterrissage, c'est un ring, ça peut être un plateau de dance floor, c'est un plateau de théâtre. C'est pour moi aussi l'abstraction de tous ces plateaux, on va venir se poser pour qu'un acte arrive. Ensuite, c'est vrai qu'il y a une deuxième partie en fait de la pièce qui est démanteler en fait ce plateau ensemble pour constamment construire des espaces pour justement que les corps se révèlent constamment. C'est-à-dire comment être ensemble pour construire nos espaces, puisque très souvent, que ce soit en architecture ou en urbanisme, notre corps est contraint à un espace qui est imposé de fait. Donc je voulais voir comment on pouvait constamment se construire son propre espace, ou notre propre espace, puisque c'est vraiment un travail qui est entièrement fait en groupe.
Alors il faut parler un petit peu de la musique, un petit peu ou beaucoup plus si vous voulez, parce que contrairement à ce que racontait Mathilde Monnier, là les musiciens sont sur scène et on les entend très fort.
Oui, on les entend très fort. Bon, on les entend très fort parce que c'est aussi le choix musical qui s'impose. C'est-à-dire que donc je travaille depuis presque 10 ans avec Jérôme Knox, qui est un compositeur qui vient plutôt, dans un premier temps, de la scène punk industrielle, donc des années 80, et qui maintenant a fait tranquillement un changement vers l'électronique. Et le batteur Didier Ambacht, qui vient de ce que j'appellerais du hardcore, donc qui est une espèce de dérive de rock extrêmement, extrêmement radical, parce que j'ai un goût absolu pour cette musique-là. Donc, au tout départ, je voulais en fait travailler avec un groupe de hard rock au complet sur scène, ce qui n'a pas pu être le cas. Donc, je vois des gens qui comprennent. Parce qu'il y a quelque chose dans l'énergie du rock et dans son capacité avec le volume sonore aussi à créer un espace, mais un espace qui est épais, qui est vraiment du volume. Donc, c'est pour ça qu'on parle de volume, c'est vraiment du volume. L'autre côté, c'est que toute cette musique-là, le fait qu'il y ait donc un batteur qui travaille lui aussi que sur la chute pour que le son se produise, c'est pour ça que je voulais travailler aussi avec un batteur, a cette capacité à rentrer dans des compositions extrêmement, on va dire, très binaires et très très inspirées de, pour nous en tout cas, de groupes comme les Swans, qui étaient vraiment des groupes punk rock américains, et de tirer ça sur une chose presque archaïque et tribale, ce qui était aussi très important pour moi sur cette pièce, puisque j'ai l'impression de faire une pièce qui est très archaïque, qui a une forme contemporaine, mais dont tout le fond, le sens, est une chose qui est très 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 archaïque.
Alors quand vous parliez de créer un volume avec la musique, entre un théâtre fermé type Théâtre de la Ville et le Cloître des Carmes, qui est un lieu très spécifique d'Avignon, est-ce que quelque chose ne se modifie pas là, entre le plein air et la salle fermée?
Mais je crois
que vous l'avez pensé, ça.
Je l'ai pensé, mais de fait, tout se modifie. Je crois que tout se modifie, puisque particulièrement, enfin, toute cette pièce, donc, qui consiste aussi beaucoup à faire naître un espace dans une boîte noire, donc qui, on va dire, qui est pas, c'est un espace d'accueil, un contenant. Là, on se retrouve à construire, nous, notre propre architecture, qui est une architecture, on va dire, abstraite, contemporaine, avec ses références, avec de l'art minimal, comme des modules de Donald Judd, face à une architecture qui existe déjà. Donc, on est de toute façon en friction avec l'architecture environnante et la nôtre. Ça m'intéressait. Je sais pas si c'est un bon choix, j'en sais rien, mais ça me donnait envie, en tout cas, de le tester.
Et c'est vous qui l'avez choisi, le Cloître des Carmes ?
En fait, non, Vincent et Hortense m'ont proposé les Carmes. Je suis venu le voir et je me suis dit, je veux bien tenter cette chose-là. C'est-à-dire que, parce que bon, il y a cet enjeu de cette pièce d'être ensemble. Et pour moi, être ensemble, c'est aussi être en friction. Donc, je me suis dit, peut-être que cette pièce-là, justement, tenter de la mettre en friction avec un autre espace. Et le fait que ça soit dehors, j'arrête pas de dire que c'est pas dehors, c'est à ciel ouvert, en fait. Et j'ai l'impression que c'est une pièce qui, à force de chuter, demande beaucoup en haut. Donc on va voir ce qu'il va nous répondre.
Être ensemble, c'est un mot qu'utilise aussi Mathilde Monnier, c'est un mot que vous utilisez. Est-ce que vous l'utilisez de la même manière, vous pensez ?
Je sais pas, je crois qu'il y a un endroit où je pense l'utiliser de la même manière, qui est un endroit très simple. C'est ça, voilà, à la base.